Où es-tu à rêver ? Lui cria brusquement la comtesse.
« Je ne suis pas à rêver, madame, » répondit-elle en ramenant sur Mao son regard coulant. « Je songe seulement que vous pourrez avoir meilleure fille que moi pour vous servir. Je pense à me marier. » C'était là savante méchanceté dont l'effet se manifesta sans retard.
« Ah ! Beau parti que tu feras !» s'écria Mao. « Ah, il sera bien pourvu, celui qui te prendra pour femme, et qui pourra rechercher ton pucelage dans le lit de tous mes écuyers, avant que d'aller aussi y gagner ses cornes !»«
À l'âge que j'ai, madame, et où vous m'avez tenue fille pour vous servir, pucelage est plutôt malheur que vertu. C'est de toute façon chose plus commune que les maisons et les biens que j'apporterai à un mari.
Si tu les gardes, ma fille, si tu les gardes, car ils ont été tondus sur mon dos !»
Béatrice sourit, et son regard noir à nouveau se voila. « Oh, madame, dit-elle avec une extrême douceur, vous n'iriez point retirer vos bienfaits à qui vous a servi en chose si secrète, et que nous avons accompli ensemble. » Mao la regarda avec haine. Béatrice savait lui rappeler les cadavres royaux qui dormaient entre elles, les dragées du hutin, le poison sur les lèvres du petit Jean Ier. Elle savait aussi comment la scène finirait par une montée de sang au visage de la comtesse, par la bavette rouge marquée sur son cou bovin.
« Tu ne te marieras pas ! Ah tiens, tiens, vois le mal que tu me fais à me tenir tête et sois contente !» dit Mao en se laissant choir sur un siège. « Le sang me monte aux oreilles qui sont toutes sonnantes, il va falloir encore me faire saigner !»«
Ne serait-ce, madame, de manger trop qui vous oblige à vous faire tirer tant de sang ?»«
Je mangerai ce qui me plaît !» hurla Mao. « Et quand il me plaît, je n'ai pas besoin d'une ignorante comme toi pour décider ce qui m'est bon. Va me chercher du fromage anglais et du vin, et ne tarde pas !»
Il ne restait plus de fromage anglais au resserre. Le dernier arrivage était épuisé.
« Qui l'a mangé ? On me vole ! Alors qu'on m'apporte un pâté en croûte !»«
Eh oui, c'est cela, bourre-toi et crève !» pensait Béatrice en déposant le plateau. Mao saisit une large tranche à pleine main et y mordit. Mais le craquement qu'elle entendit et qui lui résonna dans le crâne n'était pas seulement celui de la croûte. Elle venait de se casser une dent, une de plus. Ses yeux, gris et injectés, s'élargirent un peu. Elle demeura immobile quelques instants, la tranche de pâté d'une main, un verre de vin dans l'autre, et la bouche ouverte avec une incisive rompue au collet qui s'était mise horizontale contre la lèvre. Elle posa le verre, détacha sans peine la partie brisée de la dent. Elle mesurait de la langue la place vide sous la gencive et tâtait la surface râpeuse, blessante de la racine. En même temps, elle contemplait entre ses gros doigts le petit morceau d'ivoire jauni, noir à la brisure, ce fragment d'elle-même qui l'abandonnait. Mao releva les yeux parce que Béatrice devant elle était en train de pouffer. Les bras croisés sur la taille, les épaules agitées, la demoiselle de Parage ne pouvait plus contenir son fou rire. Avant qu'elle ait eu le temps de reculer, Mao fut sur elle et la gifla à la volée par deux fois. Le rire de Béatrice s'arrêta net. Derrière les longs cils, les prunelles noires étincelèrent d'un éclat méchant, puis s'éteignirent aussitôt. Ce soir-là, quand Béatrice aida la comtesse à se dévêtir, il semblait que la paix fût rétablie entre elles. Mao, revenu à son obsession, expliquait à Béatrice.
« Comprends-tu pourquoi je tenais tant à ce qu'on questionnât ces deux femmes ? Je suis certaine que la division aide Robert à fabriquer de fausses pièces. Je voudrais qu'on la prît la main dans le sac. »
Elle suçait machinalement son chicot que le barbier avait limé. Béatrice, depuis la double gifle, mûrissait un projet. « Puis-je, madame, vous proposer un conseil ? Accepteriez-vous de l'ouïr ?
« Mais oui, ma fille, parle, parle. Je suis vive. J'ai la main leste, mais j'ai confiance en toi. Tu le sais bien. »
« Eh bien, madame, tout le mal vient de l'héritage de mon oncle Thierry et de ce que vous n'avez point voulu payer ce qu'il laissait à la Division. Une mauvaise créature, certes, et qui ne méritait pas tant. Mais vous vous êtes fait là une ennemie qui tenait certains secrets de la bouche de mon oncle et qui est en train de les vendre à Monseigneur Robert. C'est une chance encore que j'ai pu vider à temps le coffre d'Hirson, où mon oncle serrait certains de vos papiers. Voyez quel usage en aurait pu faire cette mauvaise femme. un peu d'argent et de terre que vous lui eussiez donné, et le bec lui était scellé.
« Eh oui !» dit Mao. « J'ai peut-être eu tort, mais avoue que cette ribaude, qui s'en va se chauffer dans les draps d'un évêque, se fait encore porter au testament comme si elle était épouse légitime. Eh oui, j'ai peut-être eu tort. »
Béatrice aida Mao à ôter sa chemise de jour. La géante levait son énorme bras, découvrant aux aisselles une triste toison blanche. La graisse formait bosse sur sa nuque, comme sur l'échine des bœufs. La mamelle était lourde, affaissée, monstrueuse. « Elle est vieille, » pensait Béatrice. « Elle va mourir, mais quand ? Jusqu'à son dernier jour, je vais vêtir et dévêtir ce vilain corps et user toutes mes nuits auprès. Ah, et lorsqu'elle sera morte, que m'arrivera-t-il ?
Monseigneur Robert va sans doute gagner, avec l'appui du roi. La maison de Mao sera dispersée. »
Quand elle eut passé autour de Mao la chemise de nuit, Béatrice reprit « Si vous faisiez offrir à cette Divion de lui payer le legs qu'elle réclame, et même quelque chose en sus, vous la ramèneriez sans doute dans votre parti. Et si elle a servi à votre neveu pour de mauvaises besognes, vous pourriez connaître lesquelles et en tirer avantage. »
« C'est peut-être sagesse, ce que tu dis là, » répondit Mao. Mon comté vaut bien de dépenser 1 millier de livres, même pour payer le péché. Mais comment l'approcher, cette catin ? Elle loge à l'hôtel de Robert, qui doit la faire surveiller de près, et même la caresser un peu à l'occasion, car il n'a guère de dégoût. Il ne faudrait pas que la démarche fût éventée.
Je m'offre, madame, à aller la voir et à lui parler. Je suis la nièce de Thierry. Il pourrait m'avoir confié pour elle quelque volonté.
Mao regarda attentivement le visage calme, presque souriant de sa demoiselle de Parage. « Tu risques gros, » dit-elle, « si jamais Robert l'apprend. »
« Je sais, madame, je sais ce que je risque. Mais le péril n'est point pour m'effrayer, » dit Béatrice en ramenant sur la comtesse qui s'était couchée la couverture brodée.
« Allons, ah, tu es une bonne fille, » dit Mao. « La joue ne te brûle pas trop ?»«
Si, madame, toujours, pour vous servir. »